Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir. C'est avec vous, François Claussin.
Et surtout à 19h30 avec Lionel Bougelot pour le rappel des grands titres de l'actualité.
Plusieurs dizaines de blessés, c'est le premier bilan, sans doute encore provisoire, de deux énormes explosions survenues dans la zone du port de Beyrouth cet après-midi. On ne connaît pas encore l'origine de ces déflagrations, mais les premiers dégâts constatés sur place sont considérables. On y revient dans le détail dans le journal de 19h. L'avertissement a de quoi inquiéter. Le conseil scientifique estime hautement probable la survenue d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus à la rentrée ou à l'automne prochain. La situation est fragile et risque de basculer à tout moment, écrit l'instance qui conseille le gouvernement dans sa politique sanitaire. En déplacement à Toulon ce matin, Emmanuel Macron appelle à son tour à la vigilance et au respect des gestes barrières. Une enveloppe de 80 millions d'euros pour les aides à domicile. Emmanuel Macron annonce que les personnels qui interviennent auprès des personnes âgées ou dépendantes auront elles aussi leur prime Covid. Une enveloppe qui devrait être doublée par les départements pour un montant total de 160 millions d'euros. Cela devrait correspondre, en théorie, à 1 000 euros par agent. À Paris, Anne Hidalgo demande la mise en place de l'obligation du masque dans certains espaces publics. La maire de Paris vient d'entamer une concertation avec le préfet Didier Lallement pour déterminer quelles seront les zones précises qui seront concernées par cette obligation du port du masque qui pourrait entrer en vigueur dans les prochaines 48 ou 72 heures. Le monde du patinage artistique avait été secoué en début d'année par les révélations de Sarah Abitbol accusant son entraîneur de l'avoir violée et agressée sexuellement entre 90 et 92. L'enquête diligentée par l'inspection générale saisie par le ministère des Sports révèle que plus d'une vingtaine d'entraîneurs sont mis en cause dans des faits d'agression ou de harcèlement sexuel ou encore de violence physique ou verbale.
Merci Lionel Gougelot, on vous retrouve à 19h, peut-être des informations complémentaires sur la double explosion très spectaculaire de Beyrouth. Allez, c'est plus calme qu'à Beyrouth. Les plages françaises et j'ai envie de dire pas de jaloux Valérie Darmon, du nord au sud, hein, beau partout.
Là, du nord au sud, c'est grand beau temps, avec juste des températures qui varient un tout petit peu. Mais pour la première fois, la Méditerranée perd quelques degrés pour la baignade, à cause du vent. Mistral et Tramontane ont beaucoup soufflé ces derniers temps. Eh bien, au large de l'Hérault, l'eau est plutôt aux alentours de 18 degrés. Dans le Roussillon, 19. Dans les Alpes-Maritimes, 24. Elle a perdu en moyenne 2 à 3 degrés, quand même, la Méditerranée. Et sur vos plages pour demain, entre 29 et 30 degrés. Et elle est calme. Très beau temps et belle remontée des températures le long de la Manche et en mer du Nord avec des valeurs entre 22 et 30 degrés, 22 pour Brest, 30 pour Saint-Malo, en passant par 26 pour Dunkerque, avec une eau extrêmement calme entre 17 et 20 degrés. Toujours même chose, même situation sur la façade atlantique avec des valeurs entre 22 à La Baule et 26 à Biarritz, 26 également dans les Landes, 27 à Lacanau et un océan extrêmement calme entre 18 et 23 degrés.
Merci Valérie, 22 degrés à Brest, c'est quasiment la canicule là-bas en Finistère Nord. je dis ça parce que j'adore la Bretagne.
Ah, j'adore aussi. 18h32 sur Europe 1, place au débat des grandes voix dans votre grand journal du soir. À vos côtés aujourd'hui François, Virginie Le Guech, chef adjointe du service politique de Paris Match, et Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Vous pouvez aussi réagir au 39-21.
On vous attend effectivement au 39-21. Bonsoir Virginie Le Guech.
Bonsoir.
Bonsoir Jeannick Halimi.
Bonsoir.
L'actualité de ce mardi 4 août, c'était ça.
Aujourd'hui, je veux officialiser la décision qui a été prise de reconnaître pleinement le rôle qui a été celui d'aide à domicile durant la période du Covid. Le ministre a pu mobiliser avec l'ensemble de ses services des financements à hauteur de 80 millions d'euros pour que nous puissions redéployer justement cet argent. Et les départements se sont aussi pleinement mobilisés, ils sont des payeurs importants, ils mobiliseront 80 millions d'euros de leur côté. Et donc nous aurons avec ces 160 millions d'euros la possibilité d'apporter la prime Covid au justement personnel de soins, d'aide, d'accompagnement à domicile.
Voilà, c'était Emmanuel Macron. Il était 13h30 à Toulon cet après-midi. Il y a 10 jours, il est arrivé également avec un chèque en poche devant les policiers de la BAC Nord à Paris qui ont eu la surprise de voir le président de la République arriver, leur annoncer une augmentation substantielle des heures de nuit qui étaient effectivement sous-payées. Virginie Le Guech, c'est ça la politique des 600 jours à venir de la deuxième partie du quinquennat. Une visite de terrain pour montrer que je suis proche des gens et puis un chèque au passage, une aide.
Oui, alors il y a deux piliers qui se sont bien dessinés aujourd'hui, le social et la sécurité. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé surtout, c'est le ton d'Emmanuel Macron, que j'ai trouvé plutôt différent des fois précédentes, beaucoup plus sobre, beaucoup plus en retrait, avec des mots qui revenaient, qui rappelaient un peu la campagne de 2017, notamment le mot bienveillance. Visiblement, Emmanuel Macron est dans une recherche de quelque chose de plus modeste, moins de mise en avant, moins de moi-je, beaucoup plus de collectif. Et les mots qu'il a eus pour ses oubliés de la prime Covid, il a parlé de l'isolement, il a parlé de l'abandon. Franchement, c'était plutôt réussi. Et on pourrait dire que depuis le remaniement, depuis le succès du budget européen, il réussit pour l'instant une séquence plutôt sans faute.
Jeannick Halimi, j'ai fait le compte des déplacements de Jean Castex. On en parlait hier d'ailleurs dans les grandes voix à propos de son premier mois à Matignon. 21 déplacements en 32 jours d'exercice du pouvoir. Gérald Darmanin qui vole de commissariat en commissariat et qui crée des postes. 60 ici, 10 cet après-midi de nouveau à Toulon. Vous pensez que les Français vont adhérer ou qu'ils risquent d'y voir finalement une politique de communication, que trop d'effets d'annonces vont tuer les annonces?
Alors, tout dépend quelles sont ces annonces et si elles sont suivies de données sonnantes et trébuchantes, si elles sont suivies de projets de loi, si elles sont suivies de mesures concrètes. Ça, c'est une première chose. Après, comment les Français vont le ressentir, vont l'accepter, est-ce qu'ils vont être convaincus? Bah, ça, vous avez raison de poser la question, mais le juge de paix, ce sera les élections qui vont se multiplier d'ici 2022. Hein. Les sénatoriales, bon, qui sont quand même très indirectes par rapport à la population, mais aussi les départementales, les régionales et bien sûr les présidentielles. Donc, une chose est sûre, en revanche, c'est que la campagne pour la présidentielle, en tout cas vue par Emmanuel Macron, est bel et bien partie. Il faut bien voir tout de même que les compteurs, là, ont été remis à zéro après les municipales. Comme le disait Virginie, il y a eu un remaniement ministériel important.
D'abord, une lourde défaite, dans les urnes.
Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu ce remaniement et le départ forcé d'Édouard Philippe, juste, légitime ou pas, ça je n'en sais rien. En tout cas, il fallait symboliquement, enfin si j'ai mes raisons, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, j'ai mes opinions. Une chose est sûre, c'est que pour Emmanuel Macron, il fallait symboliquement incarner quelque chose de nouveau. Après, vous avez tout à fait raison, tout de même, la gifle prise par La République En Marche et donc Emmanuel Macron au municipal. Donc là, vous avez raison, encore une fois, il va s'adresser à tous les Français sur tous les registres, la sécurité, donc le régalien, la sécurité, bien évidemment l'économie, le social, la protection, et puis tout ce qui est santé et conséquence en tout cas de la crise sanitaire.
Voire même gestion au quotidien, puisqu'on ne sait pas exactement
absolument,
où on va.
Absolument, ouais. Absolument. Tout ça dans un chemin de 500, un peu moins de 500 ou 600 jours avant la présidentielle, dans une sorte de reconquête d'un électorat qu'il a quand même passablement perdu depuis, depuis le deuxième tour et depuis la présidentielle. Et depuis même les européennes.
Alors on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Là, nous avons des appels au 39-21. On va les prendre dans un instant, là, leur ressenti par rapport à cette politique de terrain. Mais Virginie Le Guay, vous évoquiez le choix délibéré du social et de la sécurité qui semblent être les deux mamelles du futur pouvoir. Il y a un vrai calcul politique dans ce choix. Sécurité, on va chercher du côté du Rassemblement National. Social, on va chercher un petit peu à gauche. Que Emmanuel Macron remet cette logique politique en route.
Ah, Emmanuel Macron, comme l'a dit Yannick, est en campagne. Il sait exactement où sont ses électeurs. Il a bien compris aujourd'hui que les électeurs de gauche étaient perdus et que sa base électorale, qui est une base de centre-droit, pourrait même s'élargir un peu s'il réussit à grignoter ceux qui sont encore accrochés à LR.
Si cette réforme qu'il lance d'une certaine manière aussi la cinquième branche de la sécurité sociale, la dépendance, son financement, ça pourrait être quand même un marqueur social fort de son quinquennat.
Oui, un marqueur social, mais ça pourrait surtout être, un marqueur humain. Ça va toucher tout le monde. La crise qui vient de se dérouler depuis des semaines a montré à quel point il y avait des difficultés de ce côté-là. Donc, ça touchera toutes les familles. Je ne suis pas sûre que le calcul là soit plus à gauche qu'à droite. Ça va toucher quelque chose. Je rappelle que ça a été plusieurs fois repoussé, que l'Assemblée jusqu'à présent y accordait une importance relative. Là, il le met en avant. Il le met même quasiment au premier plan parce que c'est sa première intervention officielle depuis son départ en vacances.
Il met Brigitte Bourguignon également dans un profil très particulier et dont tout le monde salue le professionnalisme et le savoir-faire dans ce domaine comme ministre délégué aux solidarités.
Oui, et moi je remarque que le remaniement du gouvernement en fait a été un remaniement qu'il a fait quasiment du sol au plafond parce qu'après il a remanié le corps préfectoral, il a remanié son équipe à l'Élysée et il a fini par se remanier lui-même et je trouve que depuis quelques semaines ce remaniement se voit enfin après avoir promis plein de fois de changer. Là il est vraiment en train de changer, peut-être sous la contrainte parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose dans son image qui ne va pas chez les Français et qu'il pourrait...
Il s'était rendu compte déjà avec les Gilets jaunes, ouais, malgré son tour de France.
Mais même pendant la crise sanitaire, toutes ces interventions étaient souvent à côté de la plaque, tombaient mal et étaient d'ailleurs souvent critiquées par rapport à celles beaucoup plus sobres d'Édouard Philippe. Là, il a franchement adopté un registre différent. Est-ce que ça va convaincre les Français? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que c'est surtout pas les résultats qu'il va obtenir dans le cadre de la crise économique qui vont changer l'idée que les Français ont de lui ou qui vont définitivement faire qu'il ait une base solide, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est son image qui a été durablement modifiée. Mais on sait bien que Chassaigne naturel, il revient au galop. Combien de temps il va pouvoir tenir comme ça?
À suivre, donc, avant de redonner la parole à Yannick Halimi, ça ne va pas être un sondage, qu'en pensent les Français, mais au moins au standard européen, on va essayer. Rémi, par exemple, qui nous appelle du beau département des Hautes-Alpes. Bonsoir Rémi.
Bonsoir François.
Votre sentiment à vous sur cette politique de terrain tous azimuts là, qui marque et qui occupe le terrain de cet été 2020?
C'est une opération de pré-campagne électorale, clairement, qui est malheureusement pour les territoires assez peu suivie des faits en général. Nous, dans les Hautes-Alpes, on a vu défiler beaucoup de ministres et même le premier d'entre eux. Le problème, c'est que, par exemple, lorsque la ministre des Transports de l'époque, Elisabeth Borne, était venue dans les Hautes-Alpes, elle était non pas venue en train de nuit, alors qu'on a un sujet sur le train de nuit.
Oui, le maintien de Paris-Briançon, l'une des deux seules lignes qui existent encore en France.
Tout à fait, oui. Donc elle aurait pu en profiter pour constater la réalité de cette ligne et les difficultés qu'elle traverse. Non, elle était venue en avion, puis elle connaissait assez mal le terrain parce qu'elle se rendait à Saint-Léger-les-Mélèzes.
Je vous interromps, Rémi, je précise que vous êtes maire d'une petite commune, je vois sur votre fiche, des Hautes-Alpes.
Tout à fait.
Et donc que vous êtes particulièrement pertinent pour juger d'un déplacement ministériel
sur
votre terre.
Si je puis me permettre, quelle étiquette?
Alors, sans étiquette, je suis membre d'aucun parti.
Voilà,
comme beaucoup de maires,
des 36 000 maires de notre pays. Allez-y Rémi, continuez parce que c'est intéressant justement.
Oui, voilà, donc elle avait une méconnaissance du terrain, notamment elle pensait qu'on pouvait rejoindre la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes, qui est dans la très belle région du Champsaur, dans les Hautes-Alpes, en une heure et demie pour aller à l'aéroport d'Aix-Marseille, ce qui est absolument pas possible, ou alors en faisant de très gros excès de vitesse. Suite à sa venue, on n'a pas eu d'amélioration ni des routes départementales ou nationales surtout. On n'a pas eu la prolongation de l'autoroute qu'on a depuis longtemps, et surtout on n'a pas eu d'amélioration du train de nuit.
Oui, le fameux Sisteron Gap. Hein, c'est ça.
Voilà.
J'adore cette région. Je dis aux gens, allez dans le Queyras d'ailleurs, si vous allez dans les Hautes-Alpes, région absolument magnifique aussi. Intéressant, Rémi, votre point de vue qui montre quand même, Yannick Halimi, les limites de l'exercice.
Je vous en prie, les limites. Après, les limites, on peut les repousser. C'est le propre du politique et de la volonté politique face à des contraintes et à la force des choses. Mais c'est vrai que surtout, c'est le cas de pratiquement tous les gouvernements depuis des années, cette déconnexion entre le sommet et la base. Mais c'est vrai, entre le Paris et la province, n'est-ce pas?
Ça allait plus loin. On était même dans un registre de défiance.
Je suis d'accord avec vous. Effectivement, cette critique s'est accentuée depuis qu'Emmanuel Macron est président, puisque dès qu'il est arrivé, dès juin ou juillet, il s'est adressé effectivement aux collectivités locales dans une sorte de grand symposium qui s'était passé de mémoire au Sénat. et ça n'a rien donné du tout. Au contraire, il les a pris dans le sens, à l'inverse du sens du poil. Alors que pourtant financièrement, contrairement aux dernières années de François Hollande, il avait au contraire, on ne va pas s'engager sur ce débat qui est un peu technique, mais il avait quand même montré sa volonté de laisser du lest à ces fameuses dotations globales que l'État octroie aux collectivités locales. On ne va pas s'engager là-dessus, mais c'est vrai.
Oui, mais c'est le nerf de la guerre quand même aussi à un moment donné.
C'est le nerf de la guerre. C'est vrai qu'en plus, au-delà de cette défiance dont vous parlez à l'égard de Paris, à l'égard de l'exécutif incarné par Emmanuel Macron, il y a eu aussi énormément de promesses qui ont été faites de l'exécutif par rapport aux collectivités locales, notamment depuis la crise des Gilets jaunes et ce fameux grand débat. Parce que ce fameux grand débat qui a été effectivement une opération plutôt réussie, politiquement parlant, de la part d'Emmanuel Macron, qui remonte maintenant à un peu plus d'un an, à part la grande convention sur l'écologie qui semble quand même donner quelques résultats, en tout cas qui ne s'est pas évanouie au magasin des accessoires de l'histoire, il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait alors qu'il y avait eu beaucoup de promesses faites justement sur le registre des collectivités locales, des décentralisations.
On voit la fameuse phrase de Jean Castex, l'intendance ne suit plus messieurs, alors que le pouvoir central avait tendance à dire l'intendance suivra. Et on est dans ce constat-là et que le défi donc serait celui que l'intendance se mette à suivre.
Que se mette à suivre et qu'on abandonne, notamment certains ministres d'Edouard Philippe et maintenant de Jean Castex, des réflexes, des histoires un peu trop technocratiques et qu'on revienne un petit peu sur le terrain et une connaissance beaucoup plus concrète de ce qui se passe, c'est le cas effectivement de tous les exemples que vient de donner le maire que vous venez d'interviewer. Ça va être court en l'espace de 2 ans, ça va être très très court, mais c'est vrai en tout cas que de nouveaux jalons peuvent être jetés dans ce domaine-là et qu'après tout, il peut avoir une opération de reconquête, même minimale, mais de reconquête de certains élus et d'une partie de l'électorat qui a abandonné Emmanuel Macron depuis au moins encore une fois un an, depuis les européennes, qui a été son climax.
Qu'il est dur de faire de la politique et de changer un pays en 5 ans, ça c'est une autre question, mais qu'il faudra soulever un jour, et d'ailleurs les deux précédents titulaires du quinquennat n'ont pas été réélus également et se sont heurtés à cette difficulté aussi de l'effet de la politique.
Le dernier auquel vous faites allusion ne s'est même pas représenté.
Ne s'est même pas représenté. Alors nous avons Yves qui nous appelle également au 39-21, on voudrait bien avoir votre sentiment. Vous êtes, vous, dans le département de l'Aube, hein, à Troyes. Bonsoir, Yves.
Exactement. Merci de prendre mon appel et bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je voudrais aborder ce débat sous un angle un petit peu différent, parce que je trouve qu'il y a un étrange paradoxe. D'une part, on reproche aux politiques de trop sillonner les routes et les marchés, alors qu'en fait, la quasi-totalité des ministres actuellement sont en vacances, et de sombrer dans une sorte de forcing de com', parce qu'aujourd'hui, tout ne serait que de la com'. D'autre part, et bien sûr, les médias n'ont cessé de reprocher aux politiques de demeurer dans les palais gouvernementaux où ils se borneraient à concocter dans le secret de leur cabinet on ne sait quelles lois indigestes conçues par des énarques ignorants des réalités de terrain. Moi, je pense qu'il faudrait un peu plus de cohérence dans tout cela. Donc, où l'on va sur le terrain pour voir et savoir ce qui permet d'agir en toute connaissance de cause, où l'on se limite à de brèves informations officielles, aussitôt décriées bien sûr par tous les commentateurs, privées ainsi de leur pitance, la fameuse com, qui permet le buzz de la petite phrase saisie au vol. Je pense que maintenant il serait grand temps de choisir, notamment dans les médias et chez les commentateurs.
Votre commentaire nous sied, on tente de faire l'inverse ici, d'aller au-delà des 140 signes, au-delà du pitch. Il nous reste malheureusement très peu de mots, Virginie Leguet, pour conclure et rebondir sur ce propos de
Déjà, je félicite notre auditeur pour cette interpellation extrêmement bien écrite. On sent que ça a été mûrement préparé.
Et bien dite aussi.
Et bien dite. Donc, bravo, monsieur. Vous n'êtes pas très aimable à l'égard des commentateurs, mais vous êtes pardonné. La commentatrice que je suis...
Non, mais on peut commenter sans commenter.
Voilà,
du pitch,
la commentatrice que je suis dirait simplement que le choix de Jean Castex correspond de toute évidence à une volonté du président d'aller sur le terrain. Je crois qu'il a déjà fait 20 déplacements et que Jean Castex Castex ne cesse de répéter justement qu'il faut vérifier si la base reçoit ce que dit le sommet et surtout ce que dit la base, ce dont elle a besoin. Et on voit bien que c'est ce qui se passe depuis quelques semaines. Jean Castex se déplace, les ministres se déplacent, Emmanuel Macron lui-même se déplace, les besoins s'expriment et ils essayent d'y répondre.
Le problème, et des prises de décision qui sont également un petit
un peu tard dans le quinquennat.
Si
voilà, on est un peu tard dans le quinquennat et je ne sais pas ce que Emmanuel Macron a réellement dans sa besace d'ici 2 ans.
Merci à vous, mesdames, de vos commentaires. Mon cher Yves, vous pourrez le dire pertinent ce soir sur Europe 1 avec, alors je vais bien le prononcer cette fois-ci, Yannick Halimi,
c'est bien.
Chef adjoint du service politique du Parisien, et Virginie Leguet, qui est directrice adjointe du service politique de Paris Match.
Europe 1. 18h48, votre grand journal du soir revient sur Europe 1 avec vous, François Claus, et les reporters d'Europe 1 pour la rétro d'actu.
Oui, pour revivre ces moments tellement étonnants qu'on a vécu pendant 2 mois. Non pas pour traiter un dossier, mais juste le témoignage et les émotions, ça méritait de les revivre. Et ce soir, nous allons parler de ce qu'a été à l'intérieur de l'hôpital la détresse des soignants. À tout de suite.